BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Mon invité, c'est Guillaume Debrosse, le patron de Bonduelle. Encore une fois, merci d'être avec nous. Vous venez de Lille, hein, vous venez du Nord, exprès, ça tombe bien. Vous avez écouté le ministre de l'économie qui a dit que certaines mesures seraient étendues à des ETI. Vous êtes une grosse ETI, plus d'un milliard justement. Vous avez publié vos résultats du premier semestre. Est-ce que la situation est pour une entreprise comme la vôtre, alors... Vous avez, j'imagine, des tas de Français qui viennent s'arracher vos bottes de conserve, non ? Donc, pour vous, c'est plutôt bon, ce coronavirus ?
Alors, je dirais que c'est une situation qu'on regarde tous les jours, qui évolue très vite. On a vu ce matin un peu le chamboulement, les bourses qui dévissent. Notre activité aujourd'hui, c'est 44% en Europe et 56% hors Europe. Sur la partie européenne... Tout ce qui est longue conservation, produits de conserve aujourd'hui est effectivement dévalisé dans les rayons. À l'inverse, le surgelé, plutôt des produits pour la restauration commerciale, sont plutôt en souffrance. Et le frais aujourd'hui très erratique. Donc pour le moment, c'est une situation qu'on observe, mais avec beaucoup de vigilance. Et puis notre préoccupation majeure, c'est de s'assurer que les usines tournent, que nos produits sont livrés et que l'économie n'est pas paralysée.
Mais justement, parce qu'en fait, Bonduelle, vous venez de partout, de Russie, de partout en Europe. Et de par le monde, hein. Donc comment est-ce que vous pouvez vous en assurer ? Qu'est-ce qui se passe ?
Alors avant tout, nous produisons localement. On est d'abord un groupe qui produit localement. Donc on n'a pas d'activité d'importation des pays asiatiques.
Mais vous avez des légumes par exemple qui viennent de Russie, non ?
Alors non, les légumes fabriqués en Russie sont pour le marché russe et pour les pays limitrophes. Donc on produit essentiellement localement, donc peu impacté par les phénomènes de blocage du commerce international. En revanche, on voit aujourd'hui que les bourses dévissent, les taux de change s'envolent. Donc c'est là-dessus qu'il faudra rester en observation pour voir si ça aura un impact sur notre business à plus long terme.
Mais quand même, Guillaume Debrosse, qu'est-ce qui pourrait arrêter vos sites de production justement ?
Alors, on regarde aujourd'hui en Europe...
Puisqu'on s'arrache plutôt vos produits, hein, les Bonduelle, là, en ce moment, j'imagine que les gens font... évidemment, pas sur la partie produits frais.
Alors, en Europe, le pays le plus critique pour le moment, c'est l'Italie, puisque tout le nord de l'Italie est un peu sous quarantaine, on va dire. Mais néanmoins, nos sites de production fonctionnent et on peut encore livrer nos produits. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté du gouvernement d'alimenter les magasins pour que les consommateurs puissent continuer à acheter des produits. Donc, à ce jour, je n'ai pas de blocage d'activité qui serait évidemment extrêmement pénalisant. Et j'espère qu'en France, ça se déroulera de la même manière. Donc, c'est peut-être des confinements de personnes. On a évidemment arrêté tous les voyages internationaux, on a annulé des conventions, des conférences, etc. Mais pour le moment, je dirais que le moteur de l'économie, nos usines fonctionnent et les livraisons sont opérées.
Oui, juste, vous avez un chiffre précis parce que vous avez dit que ça explosait, mais pour les conserves, est-ce que vous avez un chiffre qu'est-ce que ça représente pour Bonduelle?
Alors,
là
c'est parfois des commandes qui font plus 50%, et même dans certains pays de l'Est, c'est beaucoup plus que ça. Donc, vraiment une ruée sur ces conserve. Mais comme je le disais, c'est assez contrasté avec le reste en surgelé qui souffre de la baisse de fréquentation en restauration commerciale.
Oui, question que je poserai aussi du reste à Dominique Schelcher, le patron de Système U, qui sera aussi l'invité de l'Eurage, hein, parce qu'il y a des vrais mouvements, hein, qui se passent presque des mouvements de panique. Est-ce que vous, par rapport justement aux grands distributeurs, vous pourriez mettre en place des restrictions, de dire, non, je ne sais pas moi, Système U, je ne vous livre plus?
Non, c'est pas notre stratégie, c'est pas notre politique. On est une activité, en ce qui concerne la conserve, de stockage. La campagne a eu lieu l'année dernière, la campagne de production. Ouais. Hein, les légumes, ça pousse entre mai et octobre. Donc aujourd'hui, on a des stocks. On va les écouler peut-être plus rapidement que prévu. Est-ce qu'on va être en situation de rupture avant la prochaine campagne ? Je ne sais pas vous dire pour le moment. Après, il faudra faire des arbitrages et probablement du rationnement, mais tout le monde sera à la même enseigne. Par contre, ce qui est clair, c'est que aujourd'hui, on ne profite pas quelque part de cette crise-là. On ne vend pas plus cher. On essaye juste de répondre au mieux à nos clients.
Vous n'augmentez pas vos prix ?
Ah non, vraiment pas.
C'est pas du tout. C'est bien un des seuls, non ?
Non, mais je crois que c'est aussi la responsabilité. J'imagine que nos clients distributeurs ne vont pas faire de promotion, mais ça, c'est pas notre décision.
Votre premier semestre s'est plutôt bien passé. Non, on peut dire ça comme
on avait
ça.
Annoncé un...
D'où vous venez?
Oui. On avait annoncé un exercice avec un repli de notre rentabilité. Alors, le premier semestre se traduit par une activité plutôt atone en Europe et un fort dynamisme hors Europe, alors surtout tiré par l'échange. Mais aussi, on a des effets de base sur des clients et des volumes qu'on avait perdus l'année dernière. Là, on va avoir un atterrissage, je dirais, conforme à ce qu'on avait annoncé au mois d'octobre, plutôt dans le bas de la fourchette, tant en chiffre d'affaires qu'en rentabilité.
Juste là, ce qui se passe en ce moment, et peut-être dernière question, Guillaume Debrosse, est-ce que ça va avoir un impact quand même? Enfin, sur le deuxième semestre, qu'est-ce que vous dites, quoi?
Très difficile à dire, comme je vous l'ai dit.
Parce il y a du haut et du bas dans ce concert.
Qui est très tendue en conserve, impacté un petit peu sur le surgelé et le frais. Après, de notre capacité à continuer à produire et à livrer dépendra de la manière dont on va gérer la crise. Et après, il y a les effets de change. Bon, après, il faut espérer que la remontée des températures va vite faire en sorte que ce virus s'éteigne de lui-même. Voilà, mais je dirais que l'avantage d'être dans une entreprise familiale, c'est qu'on raisonne sur le long terme et qu'on sera en capacité d'absorber ce type de risque-là.
Et on voit bien, donc là, c'est quand même un peu devant une situation inédite, c'est un peu difficile de faire des vraies prévisions, hein, de hasard, mais ça, c'est le cas pour tout le monde. Merci beaucoup d'être venu ici, Guillaume Debrosse, le patron de Bonduelle. Vous viendrez nous voir pour vos annuels, comme ça, on verra l'impact que ça a pu avoir, notamment sur la partie des conserves. Restons optimistes en tous les cas. Merci beaucoup d'avoir été ici. Dans un instant, c'est Laurent Abitbol. Il est président à Vase Voyage chez Lectour du groupe Marieton. Là aussi, un secteur très impacté, mais alors là, vraiment dans le négatif. On voit ça tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est évidemment quelqu'un qui souffre dans ce contexte difficile du coronavirus. Laurent Abitbol, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être quand même là, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Oh non, c'est la catastrophe, je ne veux pas être là ». Je rappelle que vous êtes le patron du groupe Marieton. Oui. Marieton, c'est notamment Selectour, Avas Voyage, que vous avez racheté en 2015. On a écouté le ministre de l'Économie et des Finances, qui citait notamment votre secteur comme étant l'un des secteurs les plus sinistrés. Est-ce que vous nous confirmez que pour vous, ce qui se passe là, c'est quand même extrêmement dur?
Oui, on est en gros à moins 45-50% de volume d'affaires tous les jours. Donc c'est très important. Hein, on détient à peu près, on a l'entreprise à 2000 salariés, donc c'est important. Et je suis aussi présent de Selectour, la coopérative, qui a 5000 salariés. Donc tout ça, moins 50% minimum, c'est énorme. C'est très dur à supporter, mais on est là, on se battra.
Tout le monde annule?
Non.
Non?
Non. Les gens n'annulent pas. Les gens ne réservent plus. Ou peu. C'est-à-dire que la baisse des réservations est de 50%, donc pas de 100%. Et les annulations sont uniquement sur des situations à risque, Chine, choses comme ça. Les gens qui partent en Amérique, qui partent en Égypte même, en Tunisie, au Maroc, la Grèce, marche très bien. Ça continue. Donc il n'y a pas un arrêt des réservations. Il y a une baisse de 50% des réservations. Et il y a peu d'annulations. Les annulations, on peut les compter à 10 à 15% seulement. Par contre, pour le tourisme d'affaires, les hommes d'affaires qui voyagent, il y a une baisse de 50% et des annulations, beaucoup d'annulations, surtout des déplacements à l'étranger, même du TGV Lyon-Paris, des fois on annule.
Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on en fait trop? Cela dit, lorsqu'on voit que Auguste Andromanet, le patron d'ADP, a été donc testé positif au coronavirus.
Mais qu'est-ce que ça veut dire tester positif? Une grippe?
Une grippe.
Voilà.
Peut-être
on en fait trop.
Oui, d'accord, mais on est dans
il y a le système des parapluies automatiques où on est spécialiste.
C'est ce que j'allais vous dire.
On est spécialiste, mais bon, on peut pas dire non. Et si c'était vrai? Et si c'est très important? Donc on est très angoissé parce qu'on pense aussi beaucoup aux entreprises, parce que les entreprises qui coulent, c'est très mauvais pour un pays. C'est très grave. Donc on espère que ça soit pas vrai, mais on prend les mesures et on fait avec.
Oui. Alors justement, on fait avec, qu'est-ce qu'on fait? Parce que donc, le ministre de l'économie, qui était notre invité ici même avant le week-end, il a annoncé des mesures. Ce matin, il vient d'en annoncer d'autres, notamment sur la trésorerie, sur la BPI qui est votre actionnaire, sur des mesures de soutien, sur des dégrèvements fiscaux. Est-ce que pour vous, c'est très important?
Évidemment, c'est essentiel. On n'est plus dans la vente de voyage, on est comment garder notre trésorerie. Donc les mesures de charges sociales reportées, c'est très important. Les mesures d'impôts reporter, c'est important. Les mesures de chômage partiel sont évidentes.
Vous avez demandé, parce que justement j'interrogeais hier Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, sur BFM TV. Elle disait qu'il y avait 900 entreprises qui avaient sollicité. Vous faites partie de ces 900 entreprises?
Je pense qu'il y a plus que 900.
Oui, c'était le chiffre hier, parce qu'évidemment c'était 400 jeudi, voilà. 900 hier à la même heure.
On va souvent le faire. Évidemment, parce qu'on peut pas, quand il n'y a pas de client, faire quelque chose. On va souvent le faire. On n'a pas vu comment encore, mais ça peut arriver, bien sûr.
Et là, sur l'ensemble de votre groupe, ou alors sur...
On fera pas de plan social, c'est clair, parce qu'on a 2000 personnes super compétentes dans le groupe, des gens super extraordinaires, donc on fera une solidarité avec tout le monde. Tout le monde baissera un peu son temps de travail, et puis l'État paiera la différence. Ouais. Ça, c'est une bonne chose.
Donc, qu'est-ce qui est important pour vous? Donc, vous allez solliciter?
Je pense que oui. On a une réunion jeudi importante. Je pense que oui.
Ouais. Voilà. Pourquoi vous ne le faites pas tout de suite, j'ai envie de dire? Parce que moi, 40%, moi, 50%...
Je pense que mes DRH l'ont déjà commencé.
D'accord, ok. Non, c'est juste pour être précis.
On va le faire.
En plus, c'est une bonne illustration de ce qui se passe. Vous êtes au cœur de cette espèce de chute vertigineuse que connaît des pans de l'économie
française. Les tours opérateurs, les agences de voyage sont vraiment au cœur de ça.
Oui.
D'ailleurs, je crois qu'on a rendez-vous avec le ministre, M. le maire, tout à l'heure à 14h, nos délégués, nos représentants, rendez-vous avec lui tout à l'heure.
Oui, et puis on a l'IA, donc l'organisme international de l'aérien, qui a dit que ça allait coûter 113 milliards de dollars aux compagnies aériennes. Est-ce que vous attendez, là aussi, il y a déjà une entreprise Flybe qui a déposé son bilan. Est-ce que pour vous, vous attendez à des faits très, très difficiles,
bien
très
sûr,
durs, pardon?
On fait attention. Des compagnies qu'on met pour nos clients. Dorénavant, on fait attention, on a une liste. On ne la dira pas parce qu'on n'a pas le droit de le dire, mais on fait attention, on vendra plutôt la compagnie nationale, Air France, qui est solide. On vendra plutôt ce qui est français, évidemment. On a intérêt, même pour d'autres pays. Donc ça, oui.
Et pour les hôtels, est-ce que vous allez... Parce que sinon, vous risquez de perdre l'argent de vos clients et votre argent si vous réservez dans un hôtel qui ensuite est obligé d'arrêter.
Alors, nous ne payons pas avant le départ. Nous payons après le départ. Mais il est vrai qu'il y a des sommes d'argent qui sont un peu disparties dans le monde, qu'on essaie de rapatrier, ça va être très dur. Donc on n'arrivera pas à les rapatrier. Par contre, on va obtenir des reports. Des reports de voyage.
Ce qui est important, c'est que ce coronavirus, je dirais, c'est possible qu'il y ait des vacances de Pâques qui soient à peu près normales. Là, vous y croyez plus?
Pour l'instant, nous sommes pleins à Pâques. Destination Grèce, Tunisie, Croatie, on est plein. Évidemment, la Chine ne marche pas. Les États-Unis, c'est plein craqué. On n'a pas d'annulation de la crise de Pâques. Les Français sont moins alarmistes que nos gouvernants, heureusement. Heureusement pour nous, en tout cas, pour nos entreprises. Hein. Donc, il y a très peu d'annulations. On était plein il y a déjà 2 mois. Donc, il n'y aura pas d'impact vraiment pour Pâques. Peut-être mai-juin, plus difficile. Mais d'ici là, peut-être sera fini.
Peut-être sera fini, je le souhaite. En tous les cas, on se souhaite. Parce que lorsqu'on voit la journée qu'on a vécue aujourd'hui, on se dit que c'est compliqué. Il y a les compagnies aériennes qui ont dit qu'on pouvait rembourser son billet jusqu'au 31 mars sans indemnité. Est-ce que...
C'est pas exactement ça.
Ah bon?
C'est pas exactement. On ne rembourse pas.
Je vais bien vous poser la question.
On reporte. Imaginez un pays qui est interdit, comme Israël aujourd'hui, où les Français n'ont plus le droit d'aller en Israël pendant 15 jours par semaine. Les compagnies ne remboursent pas, reportent le billet d'avion. C'est bien, c'est la bonne décision.
Ah bon?
Oui, sinon vous coulez tout le monde. Si on doit rembourser tout le monde, on coule tout le monde. Donc je pense que c'est une bonne décision des compagnies aériennes de reporter les voyages. Ça permet de garder la trésorerie des compagnies aériennes. Ça serait très grave.
Vous pouvez tenir combien de temps comme ça, Laurent Abitbol?
Alors nous, on a un groupe important, on a des réserves
familiales,
on a des actionnaires, on a depuis 50 ans que la boîte existe, mon père, ma famille, on n'a jamais pris un euro de dividende. Depuis 50 ans, on n'a jamais pris de dividende.
Donc, c'est pas le moment là, je pense.
Mais on ne va pas en prendre. Donc on a des réserves, on a des bonnes réserves, mais quand même, on doit faire attention et prendre toutes les mesures sur Dadou. Les réserves ne servent pas à jeter l'argent, à piller le virus, les réserves servent à l'investissement.
Qu'est-ce que là, peut-être en conclusion, quelles sont les zones qui vous paraissent les plus, les qui vont repartir le plus lentement, si ça va forcément repartir, Laurent Abitbol, vous le savez.
La Chine, vous savez, j'ai dit une chose dans chez vos confrères de BFM, normal.
Oui. Hein, non, c'est nous la normale.
Normal, d'accord. Excusez-moi,
BFM. C'est nous les premiers.
Voilà. C'est que le prix est plus fort que la peur. C'est-à-dire que quand c'est pas cher, ça marche. Si demain je voulais perdre, je n'ai pas les moyens aujourd'hui de perdre. Je fais un week-end à Venise, à 100 euros, avion compris, je serais plein craqué.
Oui, ça c'est intéressant comme quoi, oui. Vous avez raison de rappeler ça, parce que mon avis, c'est un bon enseignement sur la nature humaine et la nature peut-être des Français. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Laurent Habitbol. Donc,
merci
le patron du groupe Marieton, Selectour, Havas Voyage. En tous les cas, c'est les marques qui sont les plus connues. Merci beaucoup de vos témoignages, malgré cette époque difficile pour vous que vous traversez. Dans un instant, c'est le patron de Système U, Dominique Schellcher. Là aussi, il y a beaucoup de questions à lui poser. Est-ce qu'il faut des restrictions? Est-ce qu'il faut la problème d'approvisionnement? Est-ce que les Français sont fous et ont stocké des pâtes et du riz? Il va nous dire tout ça dans un instant après le journal d'Aurélie Planex.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
C'est le quatrième distributeur français. On a besoin de savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans nos supermarchés, dans nos hypermarchés. Dominique Schellcher, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va le rappeler, vous êtes président de Système U. Vous veniez de Strasbourg, donc vous êtes venu, vous, sans problème. Et puis vous sortez d'un comité de direction justement pour faire le point un peu sur cette situation provoquée par cette épidémie de coronavirus. Chez vous, est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous avez effectivement des magasins qui ont été totalement dévalisés?
Alors, des magasins totalement dévalisés chez U, non. Par contre, il y a une accélération des ventes depuis 10 jours. Depuis 10 jours, on sent des achats de précaution, mais des achats de précaution, j'insiste, qui ne se font absolument pas dans la panique. On a vu ces derniers jours en Australie, dans certains autres pays, des mouvements où même les gens s'accrochaient pour acheter du papier WC. On n'a pas vu ça chez nous dans aucun magasin. Par contre, achats de précaution, donc sur les produits qu'on a entendus, les pâtes, le riz, les conserves de légumes qui sont en forte accélération, dans toute la France. Et après, il y a des points particuliers où c'est même encore un peu plus fort. Je pense au Haut-Rhin, bien sûr, où, d'où je viens. J'y étais samedi encore, là, j'étais sur le terrain. Donc dans le Haut-Rhin, dans l'Oise, également un peu dans le Morbihan. Voilà, là, comme on rentre dans une période un peu d'incertitude avec le stade 2 renforcé, les gens font quelques précautions, mais sans panique. Et tout de suite derrière, j'ajoute, il n'y aura pas de pénurie. C'est la grande question que tout le monde pose, c'est faut-il faire ce stockage parce qu'il y aura une pénurie? Donc notre réponse à nous aujourd'hui, c'est non. La chaîne logistique est complètement intacte, c'est-à-dire certes, les rayons se vident un peu plus vite, et donc nous, on livre plus vite et on re-remplit plus vite, mais nos entrepôts sont pleins, et nos commandes auprès des fournisseurs fonctionnent normalement. Donc il n'y a pas d'inquiétude dans les jours qui viennent de pénurie.
Donc il n'y a pas de rupture d'approvisionnement chez Système U.
Tout à fait.
Comme le disait chez Bonduel, hein, le président était aussi l'invité de l'Orage.
Voilà, par exemple, Monsieur Desbrosses Bonduel nous livre tout à fait normalement. Il y a un produit qui est en rupture complètement sèche, c'est le gel hydroalcoolique. Les usines tournent à fond, on nous dit que le gel va revenir dans quelques jours.
Ça, c'est à cause du décret que le ministre a annoncé ici même, non?
Ah, je pense
pas. Vous
pensez
pas, le fait que les prix soient fixés, ben, du coup, ils attendent que... Non, que les prix puissent remonter.
Non, je pense pas. Je pense vraiment que le gel hydroalcoolique a été suracheté, surstocké pendant quelques jours. Les placards maintenant sont pleins. Le temps que les usines reproduisent, bon, celui-là est manquant.
Oui. Il n'y a pas question, parce que c'est ce qui est en train de se passer en Grande-Bretagne, c'est qu'il y aura réfléchi à poser des restrictions, de dire vous n'avez pas le droit d'acheter plus de 3 paquets de pâtes ou 4 paquets de papier toilette.
Non.
Chez vous, chez Système U, pour l'instant, il en est... pas question du tout.
Non, il est absolument pas question de ça parce que on a l'approvisionnement. Ouais. Et c'est là qu'on peut dire qu'on a la chance en France d'avoir un approvisionnement extrêmement français dans l'alimentaire. Les grandes usines agroalimentaires, elles sont en France. L'essentiel de notre approvisionnement est français. Je pense que certains pays vont commencer à parler de contingentement parce qu'ils sont dépendants d'importations extérieures. Et c'est le cas de l'Angleterre, c'est pas le cas de la France. D'où dans le débat au-delà du pur coronavirus, l'importance de continuer à avoir une industrie agroalimentaire et une agriculture française forte pour assurer la production. Par contre, pour compléter à votre question, nous, ce qu'on fait chez U dans nos entrepôts, par contre, on contingente nos livraisons. Ça veut dire quoi? C'est si un magasin nous commande beaucoup plus, par exemple, de conserves de légumes qu'il ne faut, nous-mêmes allons limiter de sorte à pouvoir livrer tous les magasins.
Ah oui, donc il y a quand même
un contingentement.
Il y a une forme
interne
de restriction.
Il y a une forme de restriction chez nous pour pouvoir livrer tous les magasins, mais il n'y a pas de restriction pour les clients.
D'accord, mais il y en a chez les magasins. Donc quelque part, si on fait toute la chaîne, le client, il est forcément aussi un peu restreint.
On n'en est encore là. On en est, pour l'instant, vous voyez, on arrive à livrer
mais
tout le monde.
Mais vous avez mis ça en place.
On a mis ça en place ces derniers jours pour être sûr que tous les magasins puissent accéder aux produits.
Ouais. Juste, vous avez dit qu'il y a une forte hausse sur certains produits. Vous avez des chiffres un peu plus précis ou pas?
Alors, je peux vous donner quelques chiffres. Alors, il y a un produit dont on ne parle pas beaucoup, mais les premiers secours de parapharmacie ont progressé, par exemple, chez nous de 100%. Les pâtes, c'était plus 80%. Le riz, plus 80%. Les mouchoirs, plus 50%, les sauces, plus 40%, comme les conserves de poisson. Mmh. Voilà quelques chiffres.
Oui, ça c'est un point. Et sur les pâtes, parce que vous savez, il y a donc la nord de l'Italie qui est un peu sous cloche. Est-ce qu'il y a un risque d'approvisionnement des produits venant d'Italie?
Non, pareil, on en discutait à l'instant avec Bonduel.
Oui, ça c'est BFM Business.
Hein, c'est BFM Business, les patrons se croisent, absolument. Son usine italienne tourne tout à fait normalement et continue à produire et à livrer. Mmh. Donc il n'y a pas d'inquiétude là-dessus non plus. Et il y a beaucoup de pâtes qui sont fabriquées en France, hein, y compris par des industriels étrangers qui ont des productions en France. Donc sur les pâtes, je vais vous dire de manière précise, chez eux, on a à peu près plus d'un mois de stock. Et quand on cumule le stock, par exemple, qu'on a chez nous, plus celui qui est disponible chez les industriels, ça fait 2 mois de stock de pâtes. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de problème.
Est-ce qu'il y a une cellule de crise? Parce que là, c'est l'impact sur vos clients. Après, c'est toute la chaîne qu'on vient de descendre petit à petit. Mais il n'en demeure pas moins qu'on peut avoir, vous dites, vous êtes dans l'Oise. Vous avez des magasins dans l'Oise,
oui. dans le Haut-Rhin.
Là, il y a des problèmes de coronavirus. Qu'est-ce que vous faites, notamment, pour vos salariés, pour les clients qui viennent? Est-ce qu'il faut porter un masque pour les clients qui touchent des choses, qui touchent des aliments? Comment vous faites?
Alors, il n'y a pas de consigne particulière du gouvernement vers le commerce. Donc, nous appliquons toutes les consignes générales qui s'appliquent, donc notamment le respect des gestes barrières, qui, je pense, est la mesure la plus importante. D'ailleurs, un petit sondage de ce matin m'a frappé, qui disait que 75% des Français continuent à se serrer la main. Oui. Je pense qu'une des choses les plus raisonnables à faire dans les prochains jours, et c'est ce que nous demandons à nos 70 000 collaborateurs chez U, on a 70 000, c'est de respecter ces gestes barrières, donc pas se serrer la main, pas se faire la bise, tousser dans le coude, et c'est ce qu'on affiche aussi, donc, pour les clients qui l'entendent.
Oui.
Par contre, le port du masque n'est absolument pas préconisé dans nos magasins, donc vous ne verrez chez nous personne porter le masque aujourd'hui. Par contre, on encourage régulièrement à se laver les mains, sans problème.
En même temps, on dit qu'il faut se tenir à 1 mètre de distance. Par exemple, la caissière, elle n'est pas forcément à 1 mètre du client qui passe.
C'est vrai, c'est pour ça qu'elles sont vigilantes, hein. Elles se lavent régulièrement les mains, elles font attention aux circonstances où éventuellement les gens ont tous, mais ce n'est pas les cas les plus fréquents. Donc pour l'instant, et d'ailleurs, il n'y a aucun malade parmi nos collaborateurs, donc pour l'instant, je pense que c'est respect des consignes, vigilance, et puis raison gardée aussi, hein,
oui,
sans panique.
Non, mais en ce moment, il n'y a plus de raison gardée.
Voilà.
Mais par exemple, dans l'Oise, vous pourriez être amené à fermer vos magasins?
Pas du tout.
Pas du tout.
Ça, c'est important aussi. Et ça, c'est, je pense, quelque chose de rassurant pour nos téléspectateurs. C'est-à-dire que 2 magasins dans l'Oise, 22 dans le Haut-Rhin, en stade 2 renforcé. Il n'y a aucun problème de vie dans ces magasins qui sont alimentés, livrés et qui continuent à fonctionner normalement et où les clients viennent normalement. Donc demain, s'il devait y avoir un stade 2 renforcé national ou peut-être un stade 3, je suppose que les magasins alimentaires continueront à tourner normalement. Par contre, il y a une incidence concrète ce matin dans un département comme le Haut-Rhin où les écoles sont fermées pour 15 jours. Il nous manque à l'appel un certain nombre de collaborateurs dans les entreprises. Mmh. Voilà. Donc, pourquoi? Parce qu'ils doivent garder leurs enfants, notamment les mères de famille. Et peut-être la plus grande perturbation dans les prochains jours va être à ce niveau-là, le nombre de collaborateurs dans les entreprises qui vont manquer et qui vont peut-être perturber le fonctionnement de l'entreprise.
Oui. Au niveau de la fréquentation de vos magasins, parce que vous n'êtes pas dans les magasins de proximité, hein, Système U. Donc, comment est-ce que vous voyez un impact
Alors, si on est vraiment dans les territoires ruraux, hein, je rappelle, à 50% dans des communes de moins de 5000 habitants, il n'y a aucun impact à l'heure actuelle.
Vous n'êtes pas en centre-ville, hein, c'est ça, je voulais dire. Quand les gens sont confinés, peut-être qu'ils ne prennent pas leur voiture pour aller voir Système U dans la zone commerciale.
Pour l'instant, il n'y a aucun impact sur la fréquentation. Au contraire, comme il y a des des achats de précaution, il y a peut-être même un peu plus de fréquentation.
D'accord. Mais c'est l'île de crise organisée quand même grande vigilance.
Je ne parlerai pas encore de cellules de crise à date, puisque tout fonctionne normalement. Il y a vigilance et réunions renforcées, au jour le jour évidemment, poursuivre la situation, s'adapter et réagir au mieux et au plus près et assurer l'approvisionnement des Français.
Vous étiez à Bercy, là où des gens...
Alors personnellement non, parce que j'ai travaillé chez nous. Par contre, notre fédération était présente, bien sûr, la FCD. Et on attend le compte-rendu d'une minute à l'autre. Mais je pense, pour avoir écouté tout à l'heure les déclarations du ministre, que il y a une prise de conscience très forte et immédiate au niveau du gouvernement. Je discutais avant avec le prédécesseur sur le plateau, Havas Voyage, qui disait que non, il y a une très forte écoute. Et donc, je pense qu'elle est nécessaire et elle doit être là parce que, moi, ce que je redoute le plus, finalement, vous voyez, je ne suis pas du tout inquiet pour l'approvisionnement. Par contre, il ne faut pas que cette crise sanitaire se double d'une crise économique. Et quand je vois vos indicateurs qu'on vient de partager, dire qu'elle est quasiment déjà là.
Ah oui, c'est
donc,
sûr.
Le sujet maintenant, c'est de mettre tous les moyens en œuvre pour soutenir les plus petites entreprises et les plus fragiles. Nous, on jouera notre rôle là-dessus, notamment vers les PME qui nous livrent, par exemple.
Voilà, c'était ça, c'est ma deuxième... La deuxième partie de cette interview, Dominique Schellcher, c'est effectivement qu'est-ce que vous faites avec votre écosystème ? Parce que Système U, on sait que vous avez un rôle très important, c'est ce qui fait votre force auprès des agricultures, auprès des TPE, des PME dans l'industrie agroalimentaire.
On est Système U, je le rappelle, est le premier distributeur en France pour les produits de PME-TPE. C'est nous qui en vendons le plus, concrètement. Donc, on a passé ce matin des consignes extrêmement strictes, effectivement, pour être à l'écoute des difficultés éventuelles de ces fournisseurs-là. Mais pour l'instant... nos interlocuteurs-là sont des fournisseurs de produits alimentaires. Ils ne connaissent pour l'instant pas de difficultés. Ce qui pourrait éventuellement arriver, ce qu'on commence à entendre, c'est des difficultés de transport. Je ne trouve plus de camions pour livrer, ou etc., parce qu'il y a un peu de tension sur le transport. Donc on sera vigilant à ça, on sera à l'écoute et on fera plus attention que d'habitude dès qu'une petite entreprise nous dira « Attention, j'ai cette difficulté, une difficulté de trésorerie, il faudrait que vous me payiez plus vite, etc. » Donc voilà, le dispositif est en place, mais pas de signal d'alerte pour l'instant.
D'accord, ça c'est un point important. Tiens, vous avez bouclé justement vos négos commerciales, ça y est, elles sont enfin bouclées.
Absolument.
Les grandes négos, on va rappeler pour nos auditeurs et téléspectateurs que c'est le point de rendez-vous, c'est tout, le point de crispation surtout, entre les grands distributeurs, leurs centrales d'achat et puis les TPE, les PME.
Alors cette année, ça s'est terminé le dimanche 1er mars au soir et Système U avait tout bouclé avec 24 heures d'avance, voire 48 heures sur les produits non alimentaires. Donc on avait bien fini dans les temps et je crois pouvoir dire que ces négos se sont terminés cette année dans un état d'esprit vraiment différent, sous le coup des états généraux de l'alimentation, surtout de la loi Egalim.
Et j'en discutais. Le premier à nous expliquer que ça marche bien, la loi Egalim, alors tant mieux.
Eh bien écoutez, à l'instant, je viens de croiser un fournisseur Bonduel qui vient de me dire, écoutez, je suis content de la façon dont se sont terminés nos négos avec Système U. C'était pas du tout, c'était dans le couloir de BFM Business. Il se passe toujours plein de choses. Et ben voilà. Et je crois que c'était assez représentatif de plein de relations qu'on a eues cette année. Où Bonduel, c'est les légumes. Et ben les producteurs de Bonduel seront mieux rémunérés cette année grâce à l'accord qui a été conclu pour les produits en tout cas vendus à Système U.
Et pour les produits avec les agriculteurs, puisque on sait que les systèmes courts, Système U était un des premiers à l'avoir promu. Et donc là, vous êtes, comme vous le disiez, sans doute celui qui fait le plus pour ces... c'est presque historique, c'est dans votre ADN. Alors ça fait plus pour le producteur de lait, par exemple. Il a plus combien, lui ?
Alors, ce qu'on essaie de pratiquer dans nos négociations, c'est le discernement. Alors, particulièrement, je vous donne un exemple. Avec les produits de PME, on n'a pas demandé de déflation cette année. C'était une consigne. Aucune petite entreprise ne s'est vue imposer une demande de déflation. Ce n'était pas le cas. Par ailleurs, une de nos grandes façons de répondre à tout ça, c'est pour la fabrication de nos produits qui sont très importants dans nos ventes. C'est un tiers de nos ventes, plus d'un tiers de nos ventes. On fait des contrats tripartites. On met autour de la table des producteurs, donc une coopérative agricole, un transformateur et U. Et là, on signe des garanties d'achat sur plusieurs années, 3 à 5 ans, avec révision de prix, avec seuil de prix minimum, je pense par exemple dans le lait. Donc oui, il y a un impact très concret de négociation cette année pour les producteurs avec lesquels nous on signe.
Et à ce moment-là, parce que tout de même de l'autre côté, il y a votre consommateur, il y a l'acheteur. Hein, donc oui. Est-ce que vous achetez, avec Coca-Cola, les grands, les négociations étaient plus difficiles ?
Là, ça a pu ponctuellement être plus difficile. Et c'est là, quand je vous dis discernement, c'est pas de déflation là, contrat tripartite côté produit. Par contre, on a parfois des discussions un peu plus fortes avec les grands industriels. Mais je vous donne un exemple concret pour que tout le monde
comprenne. Alors, forte, c'est quoi ? Et forte, c'est combien, surtout ?
Par exemple, en 2018, le prix du beurre a fortement augmenté. Dans les négos 2019, on a accepté un impact de ces hausses de prix du beurre. En 2019, le prix du beurre a fortement baissé. Donc les gens qui venaient nous voir en nous disant « Ah ben, ils font encore une hausse alors que le prix du beurre a baissé », eh ben là, on a dit « Non, là, on n'est pas d'accord, on discute ». Ça, c'est un exemple de discussion. Voilà. Et il n'y a pas de drame. Il est normal à un moment, pour défendre, comment dire, le prix final au consommateur, qu'on se dise que non, les prix ne peuvent pas augmenter tous les ans.
D'accord, on a compris le message. Donc là, grosso modo, pour nous, il n'y aura pas de hausse. C'est ça que vous nous dites. Hein.
Ah, je pense qu'à la sortie des négociations, il n'y aura pas de hausse massive. Ponctuellement, sur des produits à fort cours, je vous donne un exemple. Sur le sucre, la situation des betteraviers français est assez critique.
Très critique.
Et bien là, pour les aider, on a accepté des hausses supérieures à d'habitude. Il faut s'attendre à une hausse de prix sur le sucre, par exemple, cette année.
Ok, enregistré. J'ai oublié de vous poser une question tout à l'heure. Quel est l'impact sur le drive, en l'occurrence, de la crise ? Est-ce que ça va, c'est dans le bon sens ou dans le mauvais sens ?
Non, c'est dans le bon sens. Il y a des gens qui, par précaution, achètent plus dans le magasin et d'autres qui se disent, moi, je vais même plus fréquenter le magasin. Ouais. C'est plus 30% le drive.
Plus 30%
voilà,
là.
C'est plus 30. Donc, on a tous été obligés dans nos magasins de renforcer les équipes, d'accepter plus de commandes et c'est plus 30%. Donc, et je pense que sur ce service-là, il y aura un avant et un après la crise.
C'est ce que
avec des gens qui ne connaissaient pas ce service, voilà, qui le découvrent, qui l'apprécient et qui vont sans doute le truc. Et donc, je pense que derrière cette crise, il y aura des changements de comportement et d'usage.
Lesquels alors ? Justement, j'allais vous dire, est-ce qu'on peut, puis je me disais peut-être c'est un peu trop tôt pour tirer les leçons, mais malgré tout, il y aura un avant et un après, c'est clair.
Oui. Hein. Alors, deux exemples concrets. Un, le drive, on vient d'en parler. Un autre exemple, chez U, nous commençons à être à court de matériel informatique pour renouveler par exemple des caisses ou des ordinateurs qui tomberaient en panne. Pourquoi ? Parce que tout vient de Chine. Donc là, forcément, à la sortie de la crise, on va se poser un certain nombre de questions de comment on peut stocker différemment du matériel. Est-ce qu'on
c'est
peut
fini
regarder
l'époque du zéro stock, en fait.
Voilà. Est-ce qu'on peut regarder ailleurs
de credo
les fournisseurs parce qu'on ne peut pas être à ce point dépendant d'un environnement économique qui est complètement paralysé aujourd'hui. Donc oui, on va porter des regards différents, mais on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, on gère la situation, on assure la continuité du service et dans quelques temps, on fera le bilan de la crise.
Petite question quand même, parce que business is business, et évidemment. Vous êtes intéressé par Leader Price ou pas ?
Alors, nous sommes toujours intéressés chez U. C'est une excellente question. Bien sûr que Leader Price, aujourd'hui, un certain nombre de magasins sont en vente. Et comme je l'ai toujours dit, dès que des listes de magasins, que ce soit Leader Price ou d'autres, sont en vente, U les analyse et les regarde. Et donc, et il nous arrive régulièrement de faire des propositions. Je vous donne encore un exemple. La semaine dernière, nous avons réouvert dans le sud, près de Rodez, un Super U, qui était anciennement un magasin géant casino. Voilà. Nous en avons repris 5 comme cela l'année dernière. C'est le deuxième qui ouvre après travaux. Il y en a 3 autres qui vont encore ouvrir. Donc ça, c'est un exemple. Ça pourrait être le cas demain de quelques magasins Leader Price, absolument.
Combien ça veut dire ? Parce que c'est plutôt un effet un peu de mince. Parce que justement, casino, là, ça y est sorti de son plan sauvegarde.
Oui.
Est-ce que Leader Price, il y avait une négociation en cours, mais visiblement, les prix étaient trop bas. Donc ils ont décidé de réouvrir la négociation. À Système U, par exemple, vous pourriez faire une reprise globale ou pas ? Ou vous faites ponctuellement ?
Non, Système U ne fera pas de reprise globale. Ce n'est pas dans notre ADN. Nous sommes des commerçants indépendants. Hein, je rappelle, chaque patron est propriétaire de son magasin et nous ne faisons des propositions de rachat que quand il y a des patrons derrière. Donc, il est clair qu'on n'aura pas, un exemple, 100 patrons derrière la reprise de 100 magasins. Par contre, Casino s'adresse à tous les acteurs du marché, propose des listes de magasins et peut-être qu'une petite liste de quelques magasins pourra nous intéresser.
Et quelques magasins, quoi, c'est quoi? C'est 5, c'est 10, c'est quoi?
L'avenir le dira, Edwige Chevrillon.
Non, mais grosso modo, quoi, juste envie de savoir si c'est
oui,
un peu
non,
comme
mais
ce
chez
qui
nous,
se passait en 2019, par exemple.
Chez nous, ce sera jamais en dizaines, ce sera quelques magasins dans l'ordre que vous venez de décrire.
Oui, d'accord, on a compris. Vous croyez la consolidation de votre secteur?
Écoutez, il faut observer au niveau international. Partout, il y a du mouvement actuellement. Donc, oui, et pourquoi? Pourquoi il y aura encore des mouvements? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a de grands acteurs internationaux qui interviennent sur nos marchés, qui sont parfois des nouveaux intervenants, comme Amazon, avec une puissance de négociation internationale forte, qui font que nous-mêmes devons nous organiser face à cette puissance. J'étais, il y a 2 mois, à New York, à notre grand salon annuel du retail. J'ai visité Amazon Go. Dans Amazon Go, il y a des produits de marque distributeur Amazon, y compris maintenant dans le frais, par exemple. Donc, face à ça, demain, ou pour contrer les piles Amazon qui arriveront peut-être, enfin qui sont déjà là sur le site d'ailleurs, eh ben nous, il faut qu'on s'organise et il faut qu'on soit puissant. Mais je cite Amazon, mais il y en a d'autres. Les grands discounters internationaux comme Action, voire même des gens comme Lidl, qui sont une puissance internationale d'origine allemande, extrêmement puissant, avec une négociation au niveau européen. Ben, les distributeurs français, face à ça, doivent s'organiser et répondre. Donc, à votre question, je réponds oui.
Merci. Merci beaucoup.
En tout cas,
on a appris plein de choses. Hein, et puis, c'était du concret. Merci beaucoup, Dominique Schulcher, d'être venu ici, dans les studios de BFM Business, le patron de Système U. Voilà, c'est la fin de l'heure H. Surtout, restez avec nous dans un instant, une édition spéciale autour de ce lundi noir.